Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
C'est une sixième émission sur Radio Présence pour suivre l'école d'oraison avec les carmes du couvent de Toulouse. Nous avons vu la semaine dernière quelles étaient les différentes étapes de la vie spirituelle et nous mettons l'accent aujourd'hui sur les fruits de l'oraison. Bonjour frère Jean-Gabriel.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes le prieur des Carmes de Toulouse et nous rions parce que je vous vois hocher de la tête au rythme de la musique de Vivante Église. Vous nous entretenez aujourd'hui des fruits de l'oraison et cela va certainement encourager les auditeurs de Radio Présence qui pourraient peut-être avoir du mal à se mettre à l'oraison ou à persévérer. On dénombre six fruits, l'union à Dieu, la connaissance et le détachement de soi-même, l'humilité, la simplicité, la confiance en Dieu et l'amour de Dieu et du prochain. Avant d'aborder ces fruits un à un, est-ce que vous pourriez nous dire, frère Jean-Gabriel, comment vous avez pu les dénombrer ? Est-ce que c'est quelque chose qui est universel ? Est-ce que ça a été écrit par un saint ?
C'est quelque chose qu'on retrouve surtout dans la tradition mystique chrétienne et avec tous ceux qui font l'expérience de Dieu, l'expérience spirituelle de Dieu hein, dans la foi. Donc, évidemment, tous ces fruits sont liés à l'expérience qu'on fait de l'oraison ou contemplation, parce que en fait c'est le chemin de la contemplation pour la Madre Sainte Thérèse d'Avila, c'est l'oraison. Donc si vous voulez, cette prière silencieuse et personnelle conduit forcément à une rencontre personnelle avec Dieu, parce que Dieu nous aime personnellement et il est personnel, le Dieu biblique en tout cas. Hein. Il nous introduit donc dans son royaume et ce royaume, il est au-dedans de nous. Hein. On va en parler avec justement ce chemin de l'union à Dieu par la voie de l'oraison mentale ou prière silencieuse ou prière intérieure hein, ou personnelle et intérieure. Mais si vous voulez, tous ces fruits sont liés à l'expérience qu'on peut faire et qu'on fait les grands spirituels hein, du Carmel, mais pas seulement. Hein. Mais enfin, nous, on a quand même la chance d'avoir trois docteurs dans l'Église, ce qui est pas mal, surtout le plus jeune, la petite Thérèse, 24 ans.
Thérèse. Et puis, comme vous pratiquez vous-même l'oraison, donc 2 heures par jour,
oui.
Et puis que vous faites aussi beaucoup d'accompagnement, ce sont effectivement oui. Des fruits que vous constatez.
Oui, tout à fait. Ce sont des fruits que l'on constate et j'aime beaucoup cette phrase de Saint Jean de la Croix qui dit « Celui qui fuit l'oraison fuit tout ce qu'il y a de bon ».
Dommage.
Enfin, voyez, ça dit tout. C'est-à-dire, mais il faut bien comprendre que cette rencontre de cette oraison, cette prière silencieuse, est vraiment la rencontre privilégiée qu'on peut faire avec le Seigneur qui habite au-dedans de nous. Vous voyez, ça c'est la grande idée, si vous voulez, pas seulement du Carmel, mais de toute la tradition spirituelle chrétienne. Hein, c'est même, et qui s'enracine dans la phrase de Jésus, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Je préfère d'ailleurs cette traduction-là que est parmi vous. C'est vrai qu'il est aussi parmi vous, mais il est aussi au-dedans de nous. Parce que vous voyez, la grande chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu est d'une transcendance absolue, il est le tout autre, il est l'être qui n'est qu'être, hein, on est d'accord, mais en même temps, il est d'une grande proximité. Cette grande transcendance ne l'éloigne pas de nous, puisque justement, sans lui, on ne serait pas. Donc, oui. Si vous voulez, Dieu est présent à tout, à toute son œuvre, et a fortiori hein, dans la vie spirituelle, qui est finalement l'expérience de la foi, mais d'une manière plus contemplative, spirituelle. Cette oraison nous permet de nous unir à Dieu présent en nous, et qui va justement nous permettre eh bien, de plus en plus d'entrer dans la profondeur de Dieu et de cette union qui est possible justement par la foi et la prière.
Oui, et alors c'est vrai que ça peut être utile de préciser que dans l'oraison, on ne cherche pas Dieu pour ses dons, mais on le cherche pour lui-même, et Dieu seul suffit, disait Thérèse d'Avila.
Oui, mais alors Dieu seul suffit, tout à fait d'accord, hein, solo Dios basta, c'est la grande poésie de Nadate Turbe, de la Madre, et on est tout à fait d'accord, on cherche Dieu pour lui-même, ça c'est important de le dire.
On
ne
cherche pas pour ses fruits,
vous avez tout à fait raison, il faut bien préciser les choses, parce qu'à l'heure actuelle, on entend, on met la méditation, tout ça à toutes les sauces, vous voyez, méditation pleine conscience, conscience, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on médite ? Enfin, sur quoi on médite ? Vous voyez ce que je veux dire ?
La
nature a horreur du vide, je dis toujours, et le surnaturel aussi. Voyez, c'est-à-dire que dans le surnaturel, vous cherchez Dieu. Vous ne cherchez donc pas un vide, mais une plénitude. Le vide, il est en vous. Enfin, c'est vous-même, hein, c'est le néant. Hein, je veux dire, bon, pour parler comme tous les mystiques, le petit rien, pour parler comme Mariam de Jésus crucifié. Enfin, pour, donc, voilà. Au niveau spirituel, on n'est rien sans Dieu. Hein, c'est le todo inada, Dieu est tout et nous ne sommes rien, mais en même temps, donc le Seigneur veut nous introduire par cette prière, et c'est aussi par la foi, hein, une connaissance intime de lui-même en nous. C'est-à-dire que véritablement, il faut comprendre qu'on a un trésor caché, enfoui, hein, dans le très, el más profundo centro del alma, le centre le plus profond de l'âme, c'est du Saint Jean de la Croix. Encore, où Dieu réside et où il nous attend. Hein. Précisément pour cette rencontre privilégiée, cet échange d'amitié, puisque la Madre, elle voit tout sous l'angle, la prière, l'oraison. Rappelons quand même cette grande définition qu'elle donne de l'oraison dans le chapitre 8 de l'autobiographie, la Vida. L'oraison est, il me semble, un échange d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont nous nous savons aimer.
Oui, hein,
tous les mots portent, c'est oui, extraordinaire.
Cette définition, les auditeurs la connaissent parce que vous l'avez bien reprise au fur et à mesure de, cette école d'oraison. Et donc ça, c'est ce premier fruit de l'union à Dieu.
Oui, exactement. Exactement. C'est le premier fruit de l'union à Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est-à-dire prendre conscience de cette présence de Dieu et y être présent de tout nous-mêmes. Vous voyez, c'est être là. Être là. C'est ça, être la prière, c'est être là. C'est pour ça que faire cette expérience de l'oraison, eh bien, il faut la faire. Donc, la meilleure école de l'oraison, c'est, vous voyez, je dis toujours, écoutez, la meilleure manière pour apprendre à prier, c'est de prier.
Oui, vous voyez, c'est simplement.
Mais si nous n'accordons pas, alors selon, évidemment, son état de vie, hein, il ne s'agit pas, je recommande d'ailleurs aux auditeurs de relire le traité de la vraie dévotion
de Saint François de Sales,
la vie dévote. Introduction à la vie dévote. Je me suis trompé, la traité de la vraie dévotion, c'est Grignon de Montfort.
Ah oui.
Mais introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, où il adapte. Il dit qu'elle est absolument essentielle, mais qu'il faut l'adapter en fonction de tous les états de vie.
De son état de vie, bien sûr. Oui, oui. Oui,
vous avez noté qu'effectivement,
à
deux heures de raison, comme nous, bien sûr, hein, parce que voilà, c'est pas possible pour une mère de famille ou pour. Voilà. Donc, mais il faut quand même donner du temps. Pour un lien, un entretien, cette amitié qu'on entretient avec un échange personnel, un temps personnel avec ce Dieu qui nous aime personnellement, vous voyez, et qui est très intéressé par notre vie. Vous voyez,
voilà, c'est ce que j'allais vous dire, parce que finalement, cette union à Dieu, ça veut dire qu'on accepte de confier à Dieu des choses, même celles qui paraissent insignifiantes.
Absolument.
Sans crainte de le déranger.
Absolument, sans crainte de le... Pourquoi ? Parce qu'il est notre Père, nous sommes ses enfants, et il s'intéresse à notre vie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, alors qu'il est le créateur des hommes, des anges, et bon, voilà, vous voyez, du ciel et de la terre, mais il s'intéresse à nous. Vous voyez, et c'est parce que justement Dieu est amour et amour infini, et que Dieu, précisément, le tort que nous avons, c'est de l'oublier. Vous voyez, sous Saint Augustin ne cesse de dire que justement l'oubli du Père, hein, c'est l'oubli de l'espérance, alors que la mémoire, notre mémoire, c'est le Père, et son oubli est une catastrophe. On le voit bien d'ailleurs dans le monde actuel, enfin pas seulement dans le monde actuel, mais depuis le péché originel qui est le grand oubli de Dieu. Hein, on voit tous les fruits là du coup.
Oui, bien sûr. Cette union à Dieu, c'est aussi croire que Dieu peut diriger notre vie concrètement.
Oui, et en même temps, il tient compte de nous-mêmes. C'est ça qui est très important.
Oui,
il est la cause première de tout, on est d'accord. Mais en même temps, on a une consistance devant lui. Hein, cause seconde, comme on dit en métaphysique, ça ne veut pas dire secondaire. Vous voyez, on n'est pas secondaire. On a justement à bénéficier. Alors évidemment, dans la vie spirituelle et la vie chrétienne même, c'est la grâce qui nous précède toujours. Hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, Dieu, eh bien, d'une certaine manière, nous saisit et nous agit. Mais pas sans notre consentement. Et sans notre consentement, qui va donner naissance à une activité. Hein, il ne s'agit pas du tout d'être dans une vie éthérée et dans une bulle de savon.
Oui, oui, il y a une réponse.
Il y a une réponse à donner qui est effectivement déjà fécondée par la grâce, mais que nous avons à donner en consentant à l'amour que Dieu nous donne. Et justement, cette vie d'oraison nous permet pleinement d'être en communion avec lui. Vous voyez, enfin, de plus en plus, parce que vous l'avez vu, il y a des étapes dans la vie d'oraison.
Oui, on l'a vu,
bien entendu. Il y a une croissance. Comme il y a une croissance naturelle, il y a aussi une croissance surnaturelle, si vous voulez, parce que précisément, c'est ça qui est beau. Donc, on peut toujours évoluer en mieux, si vous voulez, dans une connaissance plus profonde de Dieu, qui se donne à l'âme, qui consent à lui. Vous voyez, c'est...
Et connaissance plus profonde de Dieu qui est en lien avec une connaissance plus profonde de soi-même.
Oui, ça c'est Sainte Catherine de Sienne qui a ce mot formidable, c'est la connaissance de soi en Dieu. Je trouve ça admirable,
oui,
vous voyez. Avec la psychologie, de plus en plus, à l'heure actuelle surtout, on est dans une connaissance de soi où finalement on finit par tourner autour de nous-mêmes. Mmh. Hein. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus après à regarder le Seigneur. Or, la Madre n'arrête pas de dire à ses sœurs, je ne vous demande pas de vous regarder, mais de le regarder. Et donc...
On coupe le téléphone, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas.
Je suis désolé.
Donc cette Madre, elle dit que, effectivement, on se connaît mieux, mais évidemment, le but n'est pas de se regarder le nombril.
Exactement, n'est pas de se regarder le nombril, mais de le regarder lui. Mmh. Nous regardons et nous aimons, bien entendu. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut emprunter à Dieu pour aimer comme lui son propre amour. Ça, c'est du Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a tout compris. Quand on aura compris qu'effectivement, il faut se dessaisir précisément de soi-même, se défier même de soi, au sens où précisément on ne sait pas comment aimer, il faut apprendre de Dieu comment le faire, comment aimer. Voilà, parce que Dieu est amour et donc il va nous apprendre à le faire. Et pour cela, eh bien, bénéficier de sa présence. Alors c'est une présence qui est évidemment, les saints du Carmel se méfient terriblement de tout ce qui est vision, révélation, privé, etc. Saint Jean de la Croix, il nous en regarde dans la montée du Carmel. Alors là, je vais vous dire, il a des passages très très vigoureux sur justement, oui, parce qu'il dit que c'est une connaissance dans la foi pure. Et c'est comme ça que Dieu se donne, parce qu'il y a un mérite de la foi, justement, à ne pas avoir l'évidence de Dieu. Vous voyez, ça c'est là où on se trompe dans la vie mystique, quand on croit que c'est dans la lumière, enfin dans une lumière, et dans une évidence.
Oui,
mais
oui,
ça n'a jamais rien d'évident.
C'est pas toujours évident.
Parce que Dieu ne l'est pas. Ça saurait s'il l'était. Vous voyez ce que je veux dire? Il est justement discret. Il est infiniment discret et il est même invisible, si vous voulez. Mais il est caché. Mmh. Et Saint Jean de la Croix dira, parce que c'est un Dieu caché, il faut se cacher avec lui pour qu'il se donne à nous. Vous voyez?
Et dans ce fruit de la connaissance de soi, c'est aussi l'oraison permet aussi de se détacher de soi-même.
Absolument, ça c'est un des fruits. Vous voyez, il y a trois vertus connexes que donne la Madre dans le chemin de perfection qui authentifient notre vie d'oraison, parce qu'on peut être dans l'illusion. Justement, alors la vie mystique, on peut être tout à fait dans l'illusion. C'est l'amour mutuel. Le détachement de soi et des choses et de du péché, de tout ce qui justement entrave
tout
ce qui nous aliène, tout à fait. Et puis troisième point, l'humilité. Elle dit que la troisième vertu, c'est la plus grande de toutes. Pourquoi? Encore Sainte Catherine de Sienne, décidément, qui dit que l'humilité est la nourrice de la charité. C'est un très beau mot, ça.
Ah oui.
Pourquoi? Parce que précisément, sans humilité, l'humilité, qu'est-ce que c'est? C'est la vraie humilité, l'humilité vraie. C'est justement de reconnaître que tout le bien que l'on fait vient de Dieu. Et reconnaître forcément donc que Dieu est plus grand que nous. Mmh. Il n'y a d'humilité que par rapport à Dieu. Et Dieu, encore une fois, ne veut pas nous écraser sous sa toute puissance. Il veut se donner à nous. Mais il ne se donne à nous qu'à proportion de cette humilité qui reconnaît que tout vient de lui. Vous comprenez, c'est cela la véritable humilité qui nous permet alors du coup, plus on est humble, et plus, finalement, on arrive à à être dans le culte de la réceptivité au don de Dieu, et plus Dieu se donne.
Et puis, on le voit bien, en tout cas, dans la vie de ces grands saints, dans cette humilité, c'est aussi prendre conscience de ce besoin d'être sauvé.
Oui, absolument. Et ça ne s'invente pas, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode, vous voyez. Il n'y a même d'ailleurs pas de méthode pour prier, vous voyez. Enfin, oui. Il y a des conseils qu'on peut donner, on est bien d'accord, pour se disposer à, mais vous voyez, on ne fait que se disposer à, mais quelquefois dans l'oraison, Dieu il va se donner d'une manière très ténue, et puis d'autres fois, évidemment, comme en témoigne la Madre, il y a aussi des grandes grâces d'oraison surnaturelles. Je vous renvoie au chapitre 11 de la Vida, où Thérèse parle des quatre manières d'arroser le jardin, c'est comme autant de manières de faire oraison, et là, la dernière, c'est la pluie qui tombe, qui arrose le jardin. C'est la grâce d'union. Alors là, c'est Dieu qui fait tout, vous voyez.
Enfin, c'est Dieu qui fait tout.
Bien entendu, qu'on ne se sauve pas soi-même, on est sauvé en consentant à l'amour que Dieu nous porte. Consentir, c'est être sauvé, dit Saint Bernard. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que ça dit tout. Notre liberté est liberté de consentement. Voyez, à consentement à un amour qui nous précède, à une grâce qui justement veut nous saisir. Saint Paul en a fait amplement l'expérience.
Un dernier mot avant de marquer une pause musicale sur cette connaissance, ce détachement de soi-même et cette attitude d'humilité. Il y a aussi un rapport au temps qui peut être modifié grâce à l'oraison, notamment sur le fait d'être tout le temps préoccupé ou suroccupé.
Ah oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est un bon remède contre l'activisme.
L'activisme, oui, c'est ça.
Et le naturalisme. C'est-à-dire tout, ou le pélagianisme, vous savez, tout cette propension que nous avons à compter sur nous, sur nos propres forces, et à tout vouloir maîtriser. Alors, non pas qu'il faille pas, encore une fois, c'est pas nous établir
dans
ne rien faire, et c'est au contraire, mais ça va justement féconder notre activité quotidienne, justement. Notre quotidien va justement, étant investi de cette présence de Dieu, si vous voulez, on va trouver Dieu même au milieu des marmites, non pas parce que Dieu est dans les marmites, on l'aura compris, mais parce que Dieu est avec moi quand je suis au milieu des marmites et que je fais la cuisine. Vous voyez, c'est la manière de faire.
Ça diffuse, en fait.
Voilà. Et surtout, on va être présent à ce qu'on fait. Vous voyez, Dieu est présent. J'adore ce... En plus, on a la chance, en français, présent, ça veut dire à la fois l'instant présent, mais le trésor, le cadeau, le présent, quand je fais présent. Dieu est présent dans les deux sens du terme. Il est évidemment, comme il est éternel, il est présent à tous les instants de nos vies, puisqu'il est dans l'éternité, mais en même temps, il est présent.
Il est don.
Il est don.
Allez, frère Jean-Gabriel, je vous propose de nous arrêter quelques instants. Juste après la pause musicale, nous allons découvrir trois autres fruits de l'oraison, la simplicité, la confiance en Dieu et l'amour de Dieu et du prochain. Nous écoutons « Dieu seul suffit » d'après un poème de la grande Thérèse.
Thank you.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Dans cette sixième étape de l'école d'oraison, nous nous demandons quels sont les fruits de l'oraison. Nous sommes avec Frère Jean-Gabriel, prieur des Carmes de Toulouse. Vous nous avez expliqué quels étaient les trois premiers fruits de l'oraison, l'union à Dieu, la connaissance et le détachement de soi-même et l'humilité. Et nous voyons maintenant les trois fruits suivants, la simplicité, la confiance en Dieu et l'amour de Dieu et du prochain. Frère Jean-Gabriel, comment se matérialise la simplicité au fur et à mesure que le priant avance dans l'oraison ?
Dieu est simple et donc il va nous simplifier, voyez. D'ailleurs, la vie chrétienne, c'est très simple et c'est nous qui sommes très compliqués, c'est ça le problème. C'est très simple, il faut se laisser sauver. Hein, Dieu nous a donné son Fils, hein, on va bientôt célébrer la Semaine Sainte, la Passion de notre Seigneur et sa résurrection. Donc il s'est donné, Dieu s'est donné dans son Fils unique, bien-aimé, hein, qui s'est livré pour nous, pour nous sauver. Donc il faut se laisser sauver, mais moyennant justement cette fameuse humilité dont nous parlions, mm-hmm. c'est-à-dire de reconnaître que nous avons besoin de l'être. Besoin du salut, voyez. Ça, c'est simple, voyez, mais c'est très difficile. Donc, en fait, la simplicité, elle est liée à cette condition que nous avons. Nous nous présentons devant Dieu comme des pauvres, des mendiants du ciel, on pourrait dire, hein, des mendiants de Dieu, toujours. Et chaque jour, on vient demander son pain d'amour. C'est ça, sa manne dans l'oraison, voyez. Donc, on est très simple avec Dieu. Écoute, Seigneur, alors, on prie l'Esprit Saint à chaque fois. On a la prière Veni Sancte, donc avant chaque oraison, parce qu'on sans l'Esprit Saint, on ne peut pas prier. Donc, il vient à notre aide. Mais cette oraison qui est finalement très dépouillée, très, très pauvre, mais ce n'est pas parce qu'elle est pauvre qu'elle n'a pas de fruits, justement, qu'elle ne va pas porter de fruits. Hein. Bien au contraire. Précisément parce qu'on va cultiver cette relation avec Dieu qui est toute simple, c'est-à-dire de lui demander ce dont on a besoin, voyez, et il va y pourvoir. Hein. Ça s'appelle la providence.
Oui, c'est ça,
donc,
ouais.
Non pas pour nous établir dans une vision providentialiste des choses, comme quoi Dieu ferait tout et puis nous, on n'aurait rien à faire, au sens, voilà... à se laisser porter comme le bouchon sur l'eau, c'est pas ça, mais véritablement d'être saisi par lui pour pouvoir précisément dans la simplicité justement aborder le quotidien, aborder les êtres qu'on va rencontrer, etc., avec la grande simplicité et la grande humilité qu'on aura puisé au cœur même de l'oraison.
Oui,
vous voyez,
oui, c'est
tout simple, c'est pas, vous voyez,
c'est tout simple. Oui.
pas facile.
C'est pas facile.
Parce qu'on l'est pas.
La confiance en Dieu, c'est le cinquième fruit de l'oraison. Jusqu'où va-t-elle, cette confiance ?
Oh ben, elle ne doit pas avoir de limite, cette confiance, puisque Dieu est illimité. Hein, d'ailleurs, dans son acte d'offrande, ça a été corrigé par un de ses censeurs, mais la petite Thérèse avait écrit « désir infini ». Et le censeur théologien a corrigé « non, désir immense ». Alors qu'elle a raison. Saint Thomas dit que puisque Dieu est infini, la charité l'est aussi. Vous voyez, donc à la mesure, hein, sans mesure de la charité, donc cette confiance ne doit pas avoir de borne. La confiance en Dieu, justement, repose sur le fait que je ne puis y arriver sans lui. Donc je suis tenu de m'appuyer entièrement sur lui. Et juste, précisément, cette vie d'oraison devient vitale. Parce que précisément, sans elle, je le risque de m'approprier les dons, ma propre vie déjà, d'en faire qu'à ma tête, du sort derrière, et justement de ne pas voir que notre vie, elle est justement entre les mains de Dieu, et que le meilleur moyen de répondre à la beauté et la bonté de la vie, c'est justement de remettre cette vie entre les mains de Dieu, et de reconnaître que cette vie même vient de lui.
Et c'est là que, dans cette confiance en Dieu, c'est là que prend sa place la providence.
Oui, tout à fait.
Cet abandon au jour le jour.
Absolument. Cet abandon, la confiance et l'abandon vont ensemble, hein, bien sûr, comme l'amour de Dieu. On est tout à fait d'accord. Ça, c'est encore des vertus qui sont connexes, dont nous parle surtout la petite Thérèse, là. Et effectivement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la confiance, eh bien, va nous établir de plus en plus dans cette présence de Dieu qui nous accompagne, cette présence providentielle, cette prodigalité Dicté du Père, pour rappeler un livre qui vient de sortir. Et
une petite pub pour le Père prodigue du frère Jean-Gabriel.
On en profite. Bon. Et donc, voilà. Donc, cette libéralité de l'amour de Dieu, vous voyez, qui est là et qui n'a pas de fin, comme Dieu n'a pas de fin. Donc, il faut vraiment se mettre dans cette conscience que, mais en même temps, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est-à-dire, c'est pas pour se dire, bah, non, justement, c'est pour centrer notre vie sur lui. Et effectivement, le Seigneur la recadre, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il va purifier. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais toute la dimension pour l'union à Dieu, il y a la dimension de la purification. Hein, Saint Jean de la Croix prend cette image magnifique, qui est très simple, de la bûche qui est embrasée par le feu. Et la flamme donc investit la bûche jusqu'à ce que la bûche devienne flamme elle-même, feu elle-même. Eh bien, il dit, c'est exactement ce que Dieu veut faire jusqu'à l'union mystique, le mariage spirituel, si vous voulez, donc, hein, qu'on atteint dans les septièmes demeures, hein, du château intérieur chez la Madre. Donc, vous voyez, au sommet de la vie mystique, l'âme est tellement unie à l'Esprit Saint qu'elle aime à la manière de Dieu.
Et qu'est-ce que ça purifie incroyable. Exactement, concrètement?
Tout ce qui n'est pas Dieu. C'est-à-dire que, voilà, tout ce qui n'est pas conforme, si vous voulez, à l'amour de Dieu et à sa volonté. Donc, c'est-à-dire, effectivement, c'est une purification qui est à la fois active, hein, et passive.
Donc, par exemple, des attachements,
oui,
par exemple...
tout à fait, des attachements désordonnés. Voilà, désordonné. Ouais. Parce que évidemment, il est normal qu'on soit attaché à notre vie et attaché aux êtres qu'on aime, mais pas d'une manière désordonnée, hein, pas d'une manière qui nous couperait de Dieu, voyez, et qui nous couperait justement. Alors, il y a des attachements, voilà, il faut savoir, mais pas seulement cette purification aussi de l'âme, surtout dans la nuit de l'esprit où l'âme, dit Saint Jean de la Croix, expérimente, hein, le fait qu'elle ne sait pas aimer. Et donc, elle va, cette purification, il faut bien comprendre, c'est une disposition à l'union totale avec Dieu, parce que l'âme va comprendre que par elle-même, elle ne peut rien, mais qu'en même temps, bon, alors, donc elle va expérimenter cette grande
cette
souffrance,
pauvreté.
Cette pauvreté spirituelle et ce dépouillement total. Et là, Dieu va pouvoir se donner et l'âme va pouvoir l'accueillir parce que précisément, elle aura vu que rien ne lui appartient en propre.
Elle aura fait le vide, finalement.
Ouais. Voilà. Alors là, le vide, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Mais pour faire le plein.
Oui, c'est ça.
Vous voyez, c'est toujours cette... Il faut comprendre que Dieu est plénitude, mais que cette plénitude ne peut pas être encore accueillie. C'est pour ça qu'il y a des étapes dans la vie de la raison. Ne peut pas être accueillie tout d'un coup, mais par étapes. Et par, voyez, et dans cette croissance spirituelle, Dieu justement nous purifie de notre pauvre manière d'aimer et notre prétention justement à nous approprier les dons de Dieu, qui sont des dons précisément, et à mener notre vie à l'aune de celle de Dieu.
Donc finalement, l'oraison, elle apprend à avoir une juste distance.
Oui. Oui.
Sur les personnes, sur les choses, sur les événements, même les imprévus. Alors.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un dessaisissement, si vous voulez, de notre vision naturelle, trop humaine de voir les choses. On va voir les choses d'une manière toute divine, c'est-à-dire que, comme Dieu les voit. Vous voyez, et ça change tout. Mais c'est ça qui, justement, nous rend heureux et nous donne une joie spirituelle qui est aussi un des grands fruits de la vie d'oraison,
voilà,
joie,
en même temps
que la paix. Vous voyez, en même temps que la paix. Parce que la paix, c'est vraiment le signe de la présence du Seigneur en nous. Cette paix, justement, de notre conscience, cette paix de notre vie avec le Seigneur, de savoir qu'on est aimé. Hein, c'est les mots de la Madre, de ce Dieu, hein, échange d'amitié avec ce Dieu dont on sait qu'il nous aime, dont on se sait aimé.
Et donc on est en paix.
Donc on est en paix.
Parce qu'on n'a pas cette inquiétude.
Bah justement, on n'a pas cette. Puisqu'on cultive la présence de Dieu d'une certaine manière, bon, on a toujours besoin de se défier de soi-même. Hein. Rappelons-nous le mot de Philippe Néri, Seigneur, méfie-toi de Philippe. J'aime beaucoup cette phrase. Oui, oui. Seigneur, surtout méfie-toi de Philippe. J'ai génial. Vous voyez, il faut se défier de soi-même. Vous voyez, je crois qu'il y a, aussi un combat spirituel. Hein. Ça, c'est un des fruits aussi de l'oraison. C'est important de le signaler, surtout quand on voit toutes les dérives qu'il y a pu y avoir. Hein, précisément, on croit que la vie chrétienne, vous voyez, c'est oh, youpi, tout va bien. Vous voyez, un petit peu... espèce
avec
de,
un déni, alors
avec,
ah
oui,
déni.
Avec un déni, justement, du mal qui est... Et du mal qui est en nous et qu'il faut combattre. Vous voyez, le démon, il n'est pas seulement à l'extérieur du même. On peut avoir des démons qu'il faut... voyez, on le voit bien avec les drames, hein, les scandales dont on a maintenant connaissance, qui sont terribles, terribles pour l'Église. Hein, et pour les victimes. Hein, les victimes. Bon, et pour l'Église aussi, hein, l'image de l'Église. Comment est-ce qu'on peut être crédible après? Enfin, c'est terrible. Bon, mais donc, vous voyez, ça, il faut le dire encore, la vie d'oraison chrétienne, c'est un dialogue avec Dieu, personnel avec Dieu. Et donc Dieu, pour qu'il soit, qu'on ne soit pas dans l'illusion, bah, il faut écouter Dieu. C'est un œil qui écoute. Voilà l'oraison, je dirais. J'emprunte le mot à Claudel. Claudel, l'œil écoute, c'était un de ses ouvrages.
Est-ce que vous auriez un exemple concret de ce fruit qui est la joie qui est produite par l'oraison?
Alors un exemple, vous voulez?
Oui.
Bah, écoutez, je pense que c'est de la joie, c'est justement de se lever le matin en se disant, après avoir fait un signe de croix, remis sa journée au Seigneur, et se dire, bah oui, un nouveau jour qui commence, mais sous ton regard. Donc, si vous voulez, cette expérience qu'on peut faire justement à l'intime de l'oraison, de la prière, que Dieu est là et que je suis là avec lui. Dieu avec nous, hein, ça, c'est Jésus, Emmanuel. Donc Dieu avec nous, Dieu qui est véritablement présent, d'autant plus qu'on est présent à lui, voyez. Hein, c'est le, vous savez, c'est le la fameuse phrase du paysan, du curé d'Ars,
ah oui,
qui est là tout
seul.
Je la vise et il m'avise. Tout était dit, voyez. Hein.
Mais dans cette joie, dans ce fruit de la joie, quand on est dans une situation désespérée, une situation de souffrance très forte, comment cette joie peut transparaître?
Elle peut pas forcément transparaître. Ça, il faut se méfier, si vous voulez, des apparences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que, vous voyez, on va avoir un sourire béat toute la journée qu'on va être forcément heureux. On peut très bien dissimuler notre souffrance. Ça n'a rien à voir, hein, comme son malaise, etc. Hein. La joie, elle est intérieure. Elle est intérieure. Alors, elle peut s'exprimer extérieurement, mais pas forcément. Mais la joie, vous voyez, Thérèse, dans sa grande épreuve, la petite, hein, dans sa grande épreuve de l'espérance, de la foi et de l'espérance, où elle ne croit plus à la vie éternelle, elle dit au plus fort de mes ténèbres, il y a au fond de moi une paix inaltérable. Vous voyez, et je sens que c'est ce qu'a expérimenté notre Seigneur sur la croix. Extérieurement, c'était la déréliction totale. Il a véritablement souffert, hein, moralement, physiquement, etc. Mais en même temps, dans la paix, il avait la paix profonde, l'assurance profonde que Dieu était avec lui, parce qu'il était Dieu lui-même, et que donc Dieu ne pourrait jamais l'abandonner. Voyez, même si à un moment donné, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Oui, il y a eu
mais,
ce combat.
Mais c'est un psaume et qui se termine par « Tu m'as relevé ». Vous voyez, il faut bien...
c'est important de garder les deux.
Toujours les deux. Donc au plus fort de l'épreuve, pour répondre à votre question, au plus fort de l'épreuve, il faut toujours voir que Dieu est là. Et précisément cette épreuve, cette souffrance, hein, il faut bien voir les malades, les souffrants, ce sont ceux qui, dans leur chair, dans leur âme, etc., complètent la passion de notre Seigneur. Il faut le dire justement en ce temps de carême. Et ils ne sont pas abandonnés de Dieu. Au contraire, c'est les chéris de Dieu. Ce sont les chéris de Dieu. Pourquoi? Parce que précisément, ils vivent quelque chose de la passion de notre Seigneur. Et ils peuvent donc, je leur conseille simplement, de s'unir au Seigneur dans sa passion pour justement pouvoir prier pour le salut des pauvres âmes qui n'ont pas les mêmes grâces que nous pouvons avoir.
Frère Jean Gabriel, je vous propose de parler de ce dernier fruit de l'oraison, l'amour de Dieu et du prochain. Comment cet amour grandit et comment il se matérialise?
Alors ça, l'amour mutuel, c'est un des fruits de la madre, des vertus qui connexent de la vie d'oraison, hein, qui authentifient, hein, la vie d'oraison. L'amour mutuel, bah oui, c'est la charité, si vous voulez, c'est la charité. Je dirais que le grand fruit, ça rejoint le premier fruit, l'union à Dieu,
oui.
Hein, l'union à Dieu, charité. Donc la charité, donc pour Dieu. la charité qu'il a donc à notre égard, bien entendu, d'abord, qui va nous donner d'avoir à son égard et à l'égard des autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le nouveau commandement de Jésus. Donc, on a un contact avec le Seigneur et le Seigneur va nous donner, moyennant évidemment notre croissance ici, notre union à Dieu, va nous donner moyen de nous aimer, d'aimer les autres comme il nous aime. Vous voyez, dans cette gratuité de l'amour, voyez, et de l'aimer, donc, et de le faire aimer, voyez, en aimant. En fait, c'est ça la mission, je crois, profonde de toute l'Église, d'ailleurs, qui était celle de la petite Thérèse, hein, aimer Jésus et le faire aimer, c'est son grand leitmotiv. Et je crois qu'elle nous donne une piste pour notre mission dans l'Église, qui est toute simple. On peut très bien vivre une vie cachée et être patronne des missions, rappelons-nous. La vie d'oraison est une source cachée, et plus on se cache, plus on la découvre. Vous voyez, c'est le paradoxe. Et plus on découvre et plus on est missionnaire finalement par le plus petit acte de pur amour qui sera précisément produit par Dieu en nous. Vous voyez, ça sera plus des choses qu'on fera pour lui, mais ça sera des choses que lui fera en nous et pour nous. Vous voyez, c'est la grande différence. Vous voyez.
Et dans ces choses que Dieu fait pour nous vis-à-vis de l'amour du prochain, est-ce que ça met dans une attitude de compassion, est-ce qu'il y a finalement le cœur qui fond,
si je peux dire ? Bien entendu, mais avant que le cœur ne fonde pour l'autre, il faut qu'il fonde en nous. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'il voilà, y a la dureté de notre cœur qui doit aussi fondre, parce que notre cœur, il est dur. Vous voyez, alors bon, on n'est pas aussi miséricordieux et aimant que Dieu l'est. Lui seul sait aimer et lui seul peut dire qu'il est amour. Et donc, c'est tout un apprentissage de cet amour de Dieu pour qu'il soit réel. Là, on a encore l'exemple de la petite Thérèse dans le manuscrit C, où elle dit « Dieu m'a donné, Jésus m'a donné cette année la grâce de comprendre ce qu'était la charité fraternelle ». Et tout le manuscrit C, c'est un récit sur qu'est-ce que la véritable charité fraternelle.
Et c'est ce qui lui permet de dire qu'elle aime une sœur
qui
sourit tous les jours alors qu'elle ne peut pas l'encadrer.
Elle ne peut pas la supporter. Elle est profondément antipathique pour elle. Ça, c'est le sentiment naturel qu'elle peut avoir. Mais justement, elle essaye de dépasser ce sentiment naturel par la grâce surnaturelle. Enfin, voilà. C'est justement cet amour surnaturel.
C'est pas juste ses propres forces.
Mais oui, pour aimer Jésus dans cette sœur. Et d'ailleurs, elle se garde bien de dire à cette sœur qui demande pourquoi vous me souriez tout le temps, vous voulez dire, de m'aimer plus que les autres, alors que c'est tout le contraire. Et elle se garde bien de lui dire que c'est parce qu'elle voit Jésus au-dedans de lui.
Elle a bien trouvé la manière de dire les choses. Un dernier mot, frère Jean-Gabriel, sur cette école d'oraison qui s'achève. Dans ce temps de semaine sainte qui approche, et puis donc toutes ces 6 séances que nous avons faites, est-ce qu'il y a peut-être un conseil concret que vous voudriez donner pour à partir de ce que nous avons dit aujourd'hui pour goûter ces fruits ou pour continuer d'avancer?
Le grand conseil que je donnerais, c'est de prendre du temps avec Dieu. Quelle que soit notre manière d'oraison, quelle que soit notre manière de prier, mais prier, c'est tellement important. Je crois que là, vraiment, il faut. C'est une des pratiques, vous savez, du carême, que Jésus appelle. Mais qu'est-ce qu'il donne comme conseil pour cette pratique de la prière, Jésus ? Il dit : prie ton Père qui est là dans le secret, ferme la porte de ta chambre et prie le Père qui est là dans le secret. Toute la tradition du Carmel a interprété comme étant la cellule de notre cœur, qu'on doit fermer à tout ce qui n'est pas Dieu pour précisément bénéficier de l'action de Dieu en nous. Vous voyez, la prière, c'est vraiment une relation. Une relation personnelle avec ce Dieu qui nous a tant aimé, on va le rappeler dans la semaine sainte, et il est bon de toujours faire mémoire de cet amour de Dieu qui est de toujours à toujours, qui est fidèle à lui-même et qui ne cesse précisément de nous appeler, mais encore faut-il être là. Vous voyez, c'est la grande s'il y a un effort à faire, c'est justement pour l'attention. Nous avons besoin d'attention,
Voilà, donc beaucoup prier d'attention. Et être attentif,
voilà.
Faire preuve d'attention. Merci beaucoup, frère
Jean-Gabriel.
Je vous
en prie, Isabelle. Merci
vous étiez aujourd'hui l'invité de Radio Présence pour cette 6e étape de l'école d'Oraison. Vous nous avez présenté les fruits et nous repartons, je l'espère, plein d'entrain et d'espérance pour poursuivre cet apprentissage. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour la 7e étape. Ce sera un petit point de rappel pour cette école d'Oraison. C'était votre numéro Vivante Église sur l'école d'Oraison. Merci.
Merci à vous, Isabelle.